Et si on ouvrait la parole de Dieu, est-ce que vous avez vos Bibles, vos B-I-B-L-E ? Oui ou non ? Ah.
Gloire à Dieu.
Dimanche dernier, on a parlé sur un thème qui nous interpelle tous. On a parlé sur la sanctification de notre esprit. Et nous avons vu ensemble plusieurs choses. On avait vu, entre autres, certains éléments qui peuvent polluer notre esprit, entre autres les faux raisonnements, mais aussi, eh bien, peut-être les faux raisonnements sur nous-mêmes et même sur les autres, mais aussi les mensonges du diable. Et le diable est rusé et il sait que s'il arrive à convaincre notre esprit, eh bien, il réussira à embobiner et même à vaincre tout le reste de notre être. J'ai voulu, à un moment donné, mettre la prééminence sur l'esprit par rapport au corps et à l'âme. Ce qu'il faut regarder, alors bien sûr, on a des yeux physiques, donc nous, on ne regarde que l'enveloppe. Mais ce qui est important, c'est l'esprit qui est au-dedans de nous. C'est ça qui est important. Quand on va venir à mourir, eh bien, le corps de Joël va se décomposer. Mais par contre, l'esprit va directement vers le Seigneur. Parce que je n'envisage aucune autre issue. C'est l'esprit qui est important. Et Dieu veut parler, au travers de sa parole, il veut parler à notre esprit. On avait vu dernièrement l'importance de l'esprit au-dedans de nous. Importance, parce que sans le fait de pouvoir considérer cette prééminence de l'esprit, on ne peut pas pleinement servir Dieu efficacement. J'ai même envie de dire, si nous n'adorons pas Dieu en esprit, notre adoration n'est pas valable. Et au jour d'aujourd'hui, dans certaines églises, pas ici, merci Seigneur, on flatte l'âme, on essaie de plaire au corps, mais on a besoin d'entendre des cantiques spirituels qui viennent heurter, fortifier, percuter nos esprits. Je ne chante pas parce qu'aujourd'hui tout va bien et puis parce que le Seigneur m'a béni la semaine. Je chante envers et malgré tout, je chante par la foi, je chante en esprit et j'impose à mon âme de pouvoir bénir le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103 ou 104, je ne me rappelle plus. Mais ce que je veux, sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que là, le psalmiste impose, il demande à son âme de pouvoir louer, adorer le Seigneur. Ce n'est pas ce matin, j'ai envie, j'ai pas envie, etc. Je suis ballottant. Ça, on est encore dans le charnel et même dans l'émotion, l'âme. Mais on est appelé à être des hommes et des femmes spirituelles. La louange n'est pas une affaire d'émotion ni de sentiment, mais bel et bien une affaire spirituelle. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais encore continuer sur le thème de la sanctification de l'esprit. On a besoin de fortifier notre esprit. Et j'aimerais donc citer encore ce matin quelques moyens qui vont nous aider à sanctifier notre esprit, mais aussi à sanctifier finalement tout notre être, notre corps, notre âme, mais surtout notre esprit. Et j'ai relevé pour vous encore trois moyens que Dieu met à notre disposition pour sanctifier notre esprit. Le premier moyen, il est incontournable, c'est celui qui est devant nos yeux, c'est le livre des livres, c'est le livre de Dieu, c'est la Bible, la parole de Dieu. Paul, dans son épître à Timothée, s'adresse à un jeune homme, évidemment en l'occurrence donc Timothée, au chapitre 4, verset 5, et il dit « Tout est sanctifié par la parole et la prière ». Ne cherchez pas, je juste cite quelques versets. « Jésus a prié le Père pour que ses disciples soient sanctifiés par la vérité ». Mais il précise juste par la suite « Ta parole est la vérité ». Jean, chapitre 17, verset 17. Et nous en arrivons à un premier verset que je voudrais placer devant vos yeux, c'est Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Alors cette fois-ci, celui-là, cherchez-le, pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau évidemment. Hébreux chapitre 4 et le verset 12, l'auteur, nous ne le connaissons pas exactement, certains pensent que c'est l'apôtre Paul qui a écrit, d'autres pensent que ça a été écrit par d'autres auteurs, peu importe. Ce livre, il est parmi les 66 livres de la Bible et il est parfaitement inspiré. Et nous lisons ensemble Hébreux chapitre 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, aidez-moi, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge quoi ? Les sentiments et les pensées du cœur. » Juste un petit rappel. Maintenant, pour nous, c'est évident. L'âme est le siège de nos sentiments, le siège de nos émotions, de notre volonté, la conscience de nous-mêmes. C'est l'âme. Mais l'esprit, on le sait aussi, c'est le siège de notre intellect, de le siège de la pensée aussi, mais surtout, la partie de notre être qui nous permet d'être en communion avec Dieu. C'est le point de contact avec Dieu. Si je m'approche de Dieu, c'est avant tout d'abord par mon esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? C'est par là que Dieu va se révéler. C'est pour ça que j'avais cité la dernière fois ce passage où il est dit « L'Esprit de Dieu rend témoignage à qui ? À mon esprit que je suis enfant de Dieu. » La parole de Dieu a le pouvoir de nous aider à faire la différence. Voilà ce qu'explique ce verset 12 du chapitre 4 du livre d'Hébreux. La parole de Dieu nous aide à faire la différence entre ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'âme, ou voire de la chair. C'est une épée. Et il est dit autre part dans Éphésiens 6, c'est l'épée de l'esprit. Et quand je la place devant mes yeux, elle est capable à bien de trancher, de m'aider à voir clair, d'être clairvoyant sur ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui est inspiré d'une manière spirituelle par l'Esprit de Dieu ou ce qui est inspiré par la chair. Elle nous aide à analyser, à juger les sentiments de notre âme ainsi que les pensées de notre esprit. La Bible, lorsqu'on la place devant nos yeux, et toutes les fois on le fait, que ce soit de manière plénière comme ce matin, mais individuellement chaque jour, elle nous aide à répondre à quelques questions. Je vous en cite quelques-unes. Est-ce que tel sentiment glorifie Dieu ? Et même quelquefois, on n'a même pas besoin de poser la question à Dieu. Juste le simple fait d'être en contact de la parole de Dieu, puisque la Bible est aussi comparée à un miroir, il nous ramène à ce qu'est nos comportements, nos attitudes, et nous aide à pouvoir juger ces sentiments. Est-ce que tel sentiment glorifie Dieu ? Est-ce que telle pensée honore Dieu ou même attriste le Saint-Esprit ? Tout ça, la parole de Dieu nous aide à pouvoir pleinement y répondre. Qu'attend Dieu de moi dans la circonstance que je suis en train de traverser, dans l'épreuve que je suis en train de traverser, dans les attaques que je suis en train de traverser, les flèches enflammées du malin qui essayent de m'atteindre à droite, à gauche. Un texte que j'aime beaucoup, que j'ai appris quand j'étais encore tout petit, pas plus haut que trois pommes. Merci Seigneur pour le club des enfants, pour toutes ces activités avec animateurs, animatrices, où on enseigne le cœur des enfants. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. On réalise qu'il y a eu 40 auteurs différents, depuis Moïse jusqu'à Jean sur l'île de Patmos, qui a écrit le dernier livre, le livre d'Apocalypse. Et sur une plage de 1600 ans, des hommes tour à tour, de génération en génération, ont écrit de la part de Dieu. Mais tous ont été inspirés par un seul et même auteur, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ce que nous faisons ce matin, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans toute la justice. Et je précise, la justice de Dieu. Moi, ce verset, je l'ai retenu par l'expression suivante, ECCI, E comme enseigner, C comme convaincre, C comme corriger et I comme instruire. ECCI, enseigner, convaincre, corriger et instruire. Nous sommes sur le chemin de la sanctification lorsque nous nous laissons travailler de l'intérieur par la parole de Dieu. Ce n'est pas les chants qui vont nous changer. Ce n'est pas notre gentillesse, même notre bonne volonté qui va nous changer. On le sait tous très bien. C'est la parole. Vivante, efficace. Parce qu'elle est vivante. On peut lire des livres, mais ils sont morts en soi. C'est que des écrits couchés. La parole, on l'a lu tout à l'heure en introduction, la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est pour ça que nous, chrétiens, connaissant ces choses, on n'a pas le droit de pouvoir la négliger. On pécherait même, c'est-à-dire on manquerait le but, si nous ne la plaçons pas devant nos yeux pour connaître et connaître davantage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque nous laissons la Bible nous émonder de l'intérieur, nous sommes sur le chemin de la sanctification. D'où l'importance de pouvoir l'écouter comme il se doit. Vous savez, s'il y a un moment solennel au travers du culte, tous les moments sont importants. Et on le parlait avec les anciens. On a commencé donc ce conseil d'anciens. On se retrouve, on prend des thèmes, on est là, on prie, surtout pour les différents sujets, des sujets épineux au niveau de l'Église, des situations. Et on est d'accord que tout dans le culte a une importance. Mais ô combien l'écoute de la parole de Dieu est très importante. D'avoir un saint respect lorsqu'on a la crainte de Dieu. J'ai partagé vendredi soir avec cette femme Lydie. Lydie qui se retrouvait avec un groupe de femmes auprès de cette prière, auprès de cette rivière. Et puis l'apôtre Paul avec Silas sont arrivés, leur a annoncé l'évangile. Et il nous est dit, au milieu de ce texte, Actes chapitre 16, elle écoutait. C'est pour ça que Jésus dit autre part, prenez garde à la manière qu'on écoute. Il y a des gens, ils attendent de la part de Dieu, mais ils n'ont que faire de la parole de Dieu. Or, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi, mais je n'ai que faire de ta parole. Oui, je sais tout ça, etc. Mais on a besoin d'être attentif à la parole de Dieu. On a besoin d'avoir une certaine révérence, un certain sérieux lorsqu'on écoute la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je vous donne juste un exemple. Pendant que je préparais ce passage, c'est lorsque le peuple d'Israël s'est rassemblé. Ils étaient en captivité à Babylone et puis par la grâce de Dieu, Dieu a disposé le cœur de ceux qui les avaient rendus captifs en Babylone pour pouvoir retourner à Jérusalem. Et là, ils ont commencé à réparer la muraille de Jérusalem et réparer le temple. Et on est dans la période d'Esdras et Néhémie. Et nous lisons dans Néhémie chapitre 8, les versets 1 à 9. Alors écoutez bien, c'est le cas de le dire. Néhémie chapitre 8, versets 1 à 9. Je vous laisse le temps de pouvoir le chercher, je vais entendre le bruit des feuilles, c'est tellement important. Néhémie chapitre 8, versets 1 à 9. Esdras, Néhémie, Esther. Et on lit ensemble. Voilà, quelques secondes encore. Le peuple est rassemblé. Devant eux se trouvent entre autres Esdras, le sacrificateur, mais aussi le scribe, et puis le gouverneur Néhémie. Et regardez ce qu'il est dit. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux. En présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ils ont lu le livre de la loi du matin jusqu'à midi, presque une demi-journée à lire la parole de Dieu. Quelqu'un a dit qu'il était fatigué ? Quelqu'un a dit, on connaît, c'est chaud, etc. Le peuple fut attentif. Et c'est pas fini. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ikija, Maaseja, et à sa gauche, Pedaja, Michael, Malkija, Hashum, Ashbadam, Ashbadana. S'il y a quelqu'un qui veut trouver un nom pour son fils ou sa fille, servez-vous. Zacharie et Mekulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint à sa place. Mais on continue. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Il y a une réponse à la citation, à la proclamation de la parole. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel. Il y a une révérence de cœur, d'esprit, d'âme et de corps. Le corps se prosterne, il ne peut faire que cela. Devant l'Éternel, le visage contre terre, Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabbetaï, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Zozabad, Anan, Peladja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Voyez-vous, deux fois, deux reprises, chacun restait à sa place. Il y a une discipline à voir. Il y a une certaine révérence. Si je dis j'ai la crainte de Dieu, j'ai aussi la crainte de la parole de Dieu. Quand je vois nos amis musulmans, le respect qu'ils ont pour le livre, mais au-delà du livre, ce sont les paroles qui sont couchées, qui sont inscrites, qui sont importantes pour nous. Et ces paroles-là sont esprit et vie. Et elles ont le pouvoir de fortifier, de sanctifier notre esprit. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Verset 9, alors là c'est le comble. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, qu'est-ce qu'ils dirent ? Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car, et on a l'explication, tout le peuple, pas une partie, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Qu'est-ce que la parole de Dieu produit dans ta vie ce matin ? Quel effet il a sur ton cœur ? C'est la finalité de la parole de Dieu, de pouvoir sanctifier nos esprits. C'est la finalité de la parole de Dieu, de pouvoir bien nous aider à purifier toute mauvaise pensée. C'est la finalité à la parole de Dieu, de pouvoir sanctifier dans nos vies tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est la finalité de la parole de Dieu, de pouvoir nous transformer littéralement à l'écoute de la parole de Dieu. Ils ne sont pas restés indifférents. Il y a eu une réaction. Tout le peuple se mit à pleurer. Et je n'étais pas quelques-uns comme nous. Eh bien, ce matin, il était des milliers et des milliers. Qu'un seul bruit. Parce que là où le Saint-Esprit voit un cœur disposé, un cœur ouvert à l'écoute de la parole de Dieu, le Saint-Esprit travaille. Et il le fait en silence. Il le fait en respectant nos personnes, parce que nous sommes tous différents les uns les autres. Moi, tel verset va me toucher. L'autre, ce sera juste celui qui suivra. L'autre, c'est le précédent. Mais Dieu touche. N'allez pas me dire que Dieu n'a pas prévu une portion de bénédiction pour chacun de ses enfants ce matin. Même pour toi qui viendrais pour là où les premières fois. Dieu a voulu te parler et Dieu veut te parler par sa parole. Il envoya sa parole et il est guéri. On a besoin d'être guéri dans nos mentalités, dans notre esprit. On a besoin littéralement que le Seigneur puisse à grand jet d'eau purifier nos pensées. J'ai entendu un petit amen, mais je sais que vous êtes tous d'accord avec moi. Seigneur, envoie cette eau. Et c'est biblique ce que je suis en train de dire quand on lit par exemple Ézéchiel chapitre 36 et le verset 25. C'est Dieu qui parle. Et il utilise la bouche de l'un de ses prophètes, Ézéchiel en l'occurrence. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » L'eau pure dont il est fait mention ici, c'est ni plus ni moins l'action de la parole de Dieu. Alors vous comprenez pourquoi le diable fait tout pour essayer de détruire la Bible. Mais aujourd'hui, le livre le plus répandu, le plus lu, le plus vendu, c'est la Bible. Et je le dis avec fierté, c'est le livre de mon papa céleste. C'est le livre de notre Dieu. Vous savez, les anges veulent même plonger les regards et comprendre au travers de l'Église ce qu'a été tous les mystères, profonds secrets que Dieu a pu manifester à l'égard de ceux et celles qui ont placé leur foi en lui. C'est le livre des livres. J'ai vu des gens, même en touchant la Bible, prendre des bonds en arrière. Certains ont haï cette Bible. Pourquoi ? Certains pourraient dire, mais ce n'est qu'un livre. Et on le disait la dernière fois, dimanche dernier, pourquoi lorsqu'il nous faut lire la Bible, quelquefois on est troublé, on n'est pas concentré, etc. Ça nous arrive à tous. À qui ce n'est pas arrivé ? Patientez, ce sera une question de temps. Mais je vois, il n'y a aucune main qui se lève. On a tous compris que le fait de lire, et pas seulement lire, mais méditer la parole de Dieu, est un combat spirituel. Et là où nous devons discipliner notre esprit, c'est de pouvoir nous discipliner et puis être attentif lorsque nous trouvons, nous dégageons un temps dans la journée pour lire la parole de Dieu. N'allez pas me dire qu'on est capable de faire plein de choses et dire « mais j'ai pas eu le temps de lire la Bible ». Et quand je l'ai dit au Seigneur, J'ai senti quelques graviers dans ma bouche. La Bible dit, le menteur, il parle, et puis après, il sent comme des graviers dans sa bouche. Nous-mêmes, on ne se croit pas quand on dit ça. Vous savez, on prend du temps à chercher ce qu'on aime. Et si on est attaché à la parole de Dieu, nous aurons le temps de pouvoir la lire afin qu'elle puisse nous laver à grandes eaux. Alléluia, l'eau pure de la parole. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave mes pensées. Lave ma mentalité. Je ne veux pas être un pseudo-chrétien, mais un véritable chrétien. Et le véritable chrétien, nous allons le voir par la suite, eh bien, il est renouvelé dans son intelligence, dans son entendement. On est déjà rendu au premier point, et je m'inquiète parce que je vois le temps qui passe. Mais est-ce que je peux continuer ? J'ai parlé de trois moyens. Le deuxième moyen, alors il va peut-être surprendre certaines personnes, pour sanctifier notre esprit, pour sanctifier notre corps et notre âme, c'est ni plus ni moins l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix est incontournable. Pour ça que l'on retrouve au cœur même de nos rassemblements au travers eh bien, des emblèmes de la Sainte-Seine. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », ce n'était pas une parole en l'air. C'est que du sacrifice de Jésus, il n'y a absolument rien à rajouter, rien à retrancher. Et on le lit dans Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14. Un verset parmi tant d'autres, il nous est dit avec une grande force, « Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, » verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, l'esprit de Dieu, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Tout est inscrit là. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui nous purifie. Plus précisément, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, qui est en mesure de nous purifier de tout péché, toute iniquité. Si vous aviez connu l'ancien Joël, et si l'ancien Joël était devant vous, mais les anciens même me prendraient, m'enchaîneraient et me jetteraient loin au dehors. Mais Jésus est passé par là, son sang est passé par là. Son sang m'a purifié et son sang a purifié ma conscience. Il y a des chrétiens qui véhiculent une conscience qui n'est pas tranquille, une conscience qui n'est pas libre, qui les empêche même de dormir. Le sang de Jésus a le pouvoir de sanctifier, de purifier votre conscience. Et la Bible dit dans l'épître de Jean, si même votre cœur, autrement dit votre esprit, vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Dieu est plus grand que votre esprit. Quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit eh bien, votre parcours, il peut être plus chaotique que possible. Eh bien, le Seigneur, par son sang précieux, est capable de vous purifier, de vous sanctifier. Ça, c'est la réalité de la croix. À la croix, j'ai été réconcilié avec Dieu. À la croix, j'ai reçu la paix. À la croix, j'ai reçu l'amour divin. Le caractère même du chrétien, c'est aimer. Si je n'aime pas, je ne veux pas nous flatter ce matin. Si on n'aime pas le prochain, même si on n'aime pas nos ennemis, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va continuer à chanter, on va continuer à... Et on se trompe, on s'endurcit. Si j'aime pas ce matin comme Dieu me le demande, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand j'ai compris l'œuvre de Christ à la croix, sa mort, son sang qui a coulé, alors je l'accepte dans mon cœur et l'amour divin, l'amour de Dieu. L'amour n'est pas un caractère de Dieu, n'est pas une caractéristique de Dieu. L'amour, c'est la personne, l'essence même de Dieu. Je sais pas quoi dire. Dieu ne va pas puiser l'amour. L'amour va puiser en Dieu parce que Dieu est amour. Au même titre qu'il est esprit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mais là, je voudrais en arriver avec vous concernant la croix. C'est qu'il y a un deuxième aspect de la croix. Souvent, on vient au devant de la croix. Et j'ai beaucoup aimé ce chant tout à l'heure. La croix devant moi et le monde derrière moi. Merci Seigneur. La croix nous explique l'amour infini de Dieu. Lui, le prince de la vie, a donné sa vie afin qu'en retour, nous puissions eh bien, recevoir la vie éternelle. Mais il y a l'envers de la croix. Il y a le deuxième aspect de la croix. Il y a un autre aspect de la croix. Lorsqu'on regarde derrière cette croix, eh bien, on y voit notre propre personne être crucifiée avec Jésus-Christ. Cet autre aspect de la croix, c'est le fait de s'identifier à la mort de Jésus. C'est le fait de réaliser qu'à la croix, notre vieille nature et ses convoitises ont été également crucifiées avec Jésus. C'est moi qui le dis ou c'est la Bible ? Alors c'est la Bible, alors on est heureux. Galates chapitre 5, verset 24, un verset parmi tant d'autres. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié » la chair avec ses passions et ses désirs. C'est exactement ce qui se passe lorsque, eh bien, on passe par les eaux du baptême. C'est cette même pensée que l'apôtre Paul donne. Il dit, lorsque on vient à être enseveli dans l'eau, c'est pour ça que nous croyons au baptême par immersion. D'ailleurs, quand on regarde le mot, baptême vient du grec baptizo. Baptizo veut dire immersion totale. Il faut que vous disparaissiez. Il y a un ensevelissement qui fait mention, bien sûr, à la mort de Christ à la croix. Parce qu'au final, nous avons été morts avec Christ sur la croix. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Notre vieille nature, tout au moins. Notre vieil homme. Je vous l'ai dit, si vous connaissiez l'ancien Joël, vous prendriez peur. Pourtant, j'étais issu d'une famille chrétienne. Hein, on faisait les choses en douce. Je sais qui j'étais avant. C'est pour ça, je veux interdire à mon âme de m'empêcher de louer le Seigneur. C'est un devoir. Et c'est par l'esprit que je choisis, envers et malgré tout, quelle qu'a été ma semaine, de pouvoir élever la voix et louer mon Seigneur à l'adorer. C'est cette même vérité qui est exprimée lorsque le candidat du baptême est plongé dans l'eau du baptistère. Regardez ce qu'il est dit dans Romains chapitre 6, les versets 3 et 7. Notez ces choses, relisez-les. Il y a des choses profondes. Peut-être même s'il y a des inconvertis parmi nous qui ne peuvent comprendre. C'est par l'esprit qu'il faut comprendre ces choses. L'apôtre Paul dit, ignorez-vous? Le souci de l'apôtre Paul, on le voit au travers de tous ses épîtres, c'est de sortir les chrétiens de l'ignorance. Sortir les églises de l'ignorance. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, etc. Et il revient, ignorez-vous? Il veut interpeller la connaissance. Mais la bonne connaissance, parce que la connaissance enfre, mais c'est l'amour qui édifie. Cette révélation. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, l'ancien Joël, notre vieille nature, avec ses convoitises, avec ses vices, etc., a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et il précise, car celui qui est mort est libre du péché. Il ne réagit plus au péché puisqu'il est mort. On va lui marcher dessus, il ne va pas réagir. Aussi, il réagit, ce n'est pas en rendant le mal pour le mal, mais en obéissant à la loi de l'esprit. Il y a des profondeurs dans ces quelques versets qu'on vient de lire. Toi, Jérémie, qui bientôt, dans une semaine, va plonger dans les... Réalise toutes ces choses, comprends-les. Un ensevelissement. Il n'y aura plus de Jérémie. Et quand tu vas ressortir de l'eau, c'est un nouvel être qui s'engage à marcher avec le Seigneur, qui s'engage à marcher en nouveauté de vie. Parce que j'ai dit, il faut qu'on s'identifie à la mort de Christ, mais il faut aussi qu'on s'identifie à la résurrection de Christ. Parce que le troisième jour après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité et il en est de même pour nous. C'est la foi en ces différentes vérités, en cette vérité spirituelle qui nous aidera à triompher du péché. C'est l'acceptation de cette réalité spirituelle qui va nous permettre de marcher sur le chemin de la sanctification. N'essayons pas par nos propres forces. Je ne peux pas me changer et je voudrais aussi vous dire, sans vous attrister, vous ne pourrez pas vous changer. Mais en comprenant tout ce que Christ a fait à la croix, en comprenant que notre vieil homme a été crucifié et que nous n'avons pas de compte à lui rendre, on n'a pas à obéir aux injonctions ou aux désirs de la chair ou du corps, et même de l'âme. On a aussi à obéir à l'Esprit de Dieu qui est venu et qui a fait un avec notre esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, Romains chapitre 6, verset 11, « Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. » Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Paul n'est pas en train d'inviter les chrétiens à faire de l'autosuggestion. Je suis mort au péché, je suis mort au péché, je suis mort au péché, je suis mort. Vous savez, la méthode Coué. Non. L'apôtre Paul nous invite tout simplement à croire. Croire fermement. Que réellement, voilà ce qui s'est passé sur le plan spirituel, vous l'avez compris. Regardez-vous comme mort, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il faut le croire fermement. Il nous invite même à le confesser comme lui-même l'a fait dans l'une de ses lettres. Quand on lit Galates chapitre 2 verset 20, ne le cherchez pas, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, on peut le proclamer dès le matin. Surtout si aussi on sait que la journée sera eh bien, des plus particulières. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mieux encore, Paul nous invite eh bien, à vivre cette vérité certaine. Et pour cela, le Saint-Esprit est prêt à nous assister. Et j'en viens au troisième et dernier moyen, on va bientôt terminer, mais je me rends compte que le peuple reste en place. Que vous êtes attentif. Ça énerve le diable. Il est capable même de nous dire, attends, tu vas au culte, tu as oublié ta Bible, en rigolant. Mais quand il voit un cœur qui est à l'écoute, quand il voit un cœur ouvert, il sait qu'une semence immanquablement va tomber au plus profond de lui-même. Les gens aujourd'hui cherchent ce qui les flatte. Les gens aujourd'hui cherchent des choses nouvelles. La Bible dit à un autre passage qu'il y en a, ils veulent apprendre, mais ils sont toujours pareils. Ne soyons pas de ces genres de chrétiens-là. Déjà, mon frère, ma sœur, ce que tu sais, ce que nous savons, mettons-le en pratique. Et on sera heureux. Ce n'est pas le fait de connaître des choses qui va nous permettre d'avancer, c'est le fait de les mettre en pratique. Mais je parle à des gens convaincus. Le dernier moyen, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Je voudrais dresser la révérence à la personne du Saint-Esprit. Troisième personne du Dieu vivant et vrai. Celui qui se manifeste et qu'on le voit dès les premiers versets du premier livre de la Bible. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le même qui dit dans le livre d'Apocalypse avec l'Église, « Viens bientôt Seigneur !» Celui qui parcourt les âges, qui a saisi des hommes, des femmes, revêtus du Saint-Esprit, ils ont pu faire des choses surnaturelles. Mais dans les derniers temps, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est venue à bien se révéler au cœur, et mieux encore à l'esprit, de ceux et de celles qui auraient choisi à bien de croire en Dieu. Regardez toujours de la bouche du prophète Ézéchiel ce que Dieu a promis à son peuple. Regardez Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Juste deux versets. Dieu qui parle et qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit, oh là, ça c'est une autre dimension, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ça nous parle de la nouvelle naissance. Lors de notre repentance conversion, pour reconnaître un véritable chrétien, il vit ce que nous venons de lire au verset 26. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça. On ne peut pas l'expliquer. La personne est changée. Il a comme une autre mentalité. L'esprit de Dieu vient vivifier son esprit qui jusqu'alors était spirituellement mort. Autrement dit, son esprit était cautérisé ou même dans le coma. Il ne pouvait pas avoir de contact avec l'esprit de Dieu, avec Dieu lui-même. Mais quand le Saint-Esprit vient, il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, alors là, on est éveillé aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure, quand eh bien, l'Esprit de Dieu est là, tout peut arriver. Seigneur, réveille-nous. C'est ce qu'il fait lors de la conversion, lors de la nouvelle naissance. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Puisqu'au départ, rappelez-vous, quand j'ai cité Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu façonna un homme de la poussière de la terre, et une deuxième phase pour la construction, la création de l'homme, il souffla au-dedans de lui un souffle de vie. Et c'est alors qu'il devient une âme vivante, un être vivant. Et finalement, eh bien, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, non seulement le Saint-Esprit lui-même vient vivifier notre esprit, le renouveler, mieux encore, lorsque réellement nous nous convertissons à Dieu, le Saint-Esprit en personne vient habiter notre vie. Attendez, je vais répéter ça. Dieu lui-même, par son esprit, vient habiter en nous. Pas n'importe où, hein. Il ne vient pas habiter dans notre corps, il ne vient pas habiter dans notre âme, il vient habiter dans notre esprit. Alors certains pourraient dire, mais Joël, tu ne savez-vous pas, ne sais-tu pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit ? Oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, je vous l'ai dit, bientôt, on va commencer, bientôt, c'est certainement à la rentrée prochaine, on va commencer toute une étude les mardis, sur plusieurs mardis, sur le tabernacle. Et le tabernacle, vous savez que c'est symboliquement la présence de Dieu parmi son peuple. Le tabernacle qui avait été demandé à Moïse et tout le peuple de pouvoir construire. Et dans ce tabernacle, on trouve trois parties. Il y a l'enceinte extérieure, c'est-à-dire le parvis. Après, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et le tabernacle est ni plus ni moins l'image de notre être, qui est aussi un être trinitaire, corps, âme et esprit. Le parvis est, si vous voulez, le corps. Le lieu saint est l'âme, mais le lieu très saint, là où se trouve l'arche de l'Alliance, c'est le lieu très saint, c'est notre esprit. Donc quand on vient se convertir à Dieu, l'Esprit de Dieu vient dans notre esprit. S'il fallait le localiser géographiquement, il vient dans notre esprit. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on devient un homme, une femme spirituelle parce que maintenant l'esprit s'éveille, il se réveille et il prend autorité sur l'âme, sur les émotions et il prend autorité sur le corps. Est-ce que nous comprenons ces choses, frères et sœurs ? Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il nous renouvelle, il nous régénère notre esprit, notre entendement spirituel. On ne pense plus comme avant. On ne voit plus les choses comme avant. Mais rappelez-vous votre conversion. Des choses qu'on faisait avant, naturellement, on ne le faisait plus. C'est l'activité du Saint-Esprit dans notre esprit. Et parce que notre esprit prend le dessus, eh bien, il commande nos émotions et commande également nos corps. Le souffle de l'Esprit de Dieu ranime notre esprit. Il éveille aux choses spirituelles de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 et 13, des versets, j'aurais pu encore vous en citer. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu quoi ? L'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est par ce moyen-là seulement qu'on pourra connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et elles sont nombreuses, ces choses. Elles sont infinies. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant, évidemment, un langage spirituel pour des choses spirituelles. C'est pour ça, ne nous efforçons pas de faire comprendre à des personnes inconverties certaines choses qu'ils ne pourront pas comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on les comprend et c'est spirituellement qu'on peut pleinement les vivre. Attirez-les d'abord vers Jésus, qu'ils puissent connaître aussi cette expérience de régénération produite par l'Esprit de Dieu. C'est un petit peu, et je termine par cela, ce qu'a fait Jésus lorsque, rappelez-vous, il est mort à la croix, mais le troisième jour, béni soit Dieu, il est ressuscité. Et il s'est révélé, la Bible nous dit, à plus de 500 frères à la fois. Mais il y a un moment donné où il s'est révélé en particulier à ses disciples qu'il avait choisis pour les avoir avec lui. Ce jour-là, Thomas n'y était pas. Jésus apparaît alors que les portes étaient verrouillées, fermées. Jésus leur dit que la paix soit avec vous, leur donne un ordre de mission. Comme Dieu m'a envoyé, le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et la Bible nous dit, et c'est le dernier verset que je voudrais lire, Jean chapitre 20, verset 22, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. » Un souffle. Et comprenez bien qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas en train de vivre le baptême du Saint-Esprit, puisque ça s'est réalisé bien plus tard, quelques jours plus tard, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute, parce qu'il fallait que Jésus remonte au ciel avant d'envoyer le Saint-Esprit. Il faut comprendre que lorsque Jésus a soufflé sur eux et leur a dit « recevez le Saint-Esprit », au fait, à ce moment-là, Jésus était en train de fortifier leur esprit. Était en train de leur donner la force nécessaire, peut-être pour persévérer. Vous savez qu'à partir du moment où Jésus est monté au ciel, ils ont attendu 10 jours. Et le 10e jour, le jour, la fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Mais ils ont persévéré pendant 10 jours. Et comprenez bien, Ça, c'est le texte. Le texte ne le dit pas par un verset, mais on peut le sous-entendre. Au départ, dans la chambre haute, je suis sûr qu'il était plus que environ 120. Mais peut-être pendant ces 10 jours-là, certains se sont découragés. Et on dit, mais elle est où la promesse ? Et la Bible nous dit, le jour où le Saint-Esprit est descendu, ils étaient environ 120. Et parce qu'ils ont attendu, ils ont persévéré, parce qu'ils étaient fervents d'esprit, parce qu'ils n'ont pas voulu se laisser balloter ou décourager par leur émotion, par leur âme, par, encore moins par leur corps, ils ont été fervents d'esprit, ils ont été fortifiés dans l'esprit pour persévérer jusqu'à ce que Dieu a bien manifeste sa promesse. Et ils ont été à ce moment-là clairvoyants. Quand on voit dans le livre des Actes ce que a fait Pierre, le même Pierre qui avait renié le Seigneur, hein, il s'est levé, il a dit, bon, ce qui s'est passé pour Judas devait arriver. Il a cité des passages de l'Ancien Testament. Il a dit aussi dans les psaumes, il faut qu'on le remplace. Voilà ce que dit l'un des livres des psaumes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tout ça parce que son esprit a été renouvelé. Il a été fortifié. Son esprit était réveillé. Et ils ont pu donc remplacer Judas par un certain Matthias. Frères et sœurs, voilà ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce qu'il y a à dire en conclusion ? Voilà ce dont nous avons besoin. Un souffle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit tout à nouveau fortifie notre esprit. Afin que nous ne soyons pas ballottés.
Oh, je suis découragé, il y a ceci, il y a cela.
Je ne minimise pas, frère, je ne minimise pas, sœur. Ce que vous êtes peut-être en train de vivre. Mais on est capable, par la foi, dans notre esprit, de dire c'est vrai, il y a telle ou telle situation. Mais je choisis, je commande à mon âme, je commande à mon corps de toujours continuer à pouvoir persévérer, de pouvoir, alléluia, rester debout. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout peut arriver, frères et sœurs. On a besoin d'être plein de ferveur d'esprit, que seul le souffle du Saint-Esprit est capable de nous communiquer. Je prie Dieu pour que notre esprit aussi puisse être lavé à grandes eaux, eh bien par la puissance de la parole, par l'eau pure de la parole, et aussi que nous réalisions que notre vieille nature, ces passions coupables, ont été crucifiées avec Christ. On n'a plus lieu d'obéir à ce que la chair nous demande. On peut dire oui, et on peut dire non. C'est pour ça que devant Dieu, on n'aura aucune excuse. Je ne pourrai pas dire, quand je passerai devant le tribunal de Christ, quand je serai seul, c'est à cause d'un tel, à cause d'une telle, c'est ceci, c'est cela, tout ça, ça ne viendra même pas à votre esprit. On n'a plus aucune excuse. Quand Jésus a demandé à cet homme à qui il avait été confié des talents, il a essayé d'argumenter, mais lui-même, ses arguments, eh bien, l'ont confondu. Toute bouche sera fermée. Parce que Dieu nous a tout donné. Dites-moi, qu'est-ce qui a manqué au salut de Dieu ? On a besoin d'être fervent d'esprit. On a besoin de laisser encore le Seigneur sanctifier notre esprit. On a besoin de laisser l'Esprit de Dieu nous donner à être revigorés dans notre esprit afin que ce n'est pas notre âme ou notre corps qui nous commande, mais que ce soit eh bien, notre esprit qui est en connexion avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous comprenons ces choses ? Alléluia, on va prier le Seigneur. Baissons la tête, fermons les yeux. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour ta parole. Le peuple était attentif et personne ne bougeait de sa place. Il y avait une crainte. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et encore ce matin, nous te demandons d'opérer dans les cœurs. D'opérer dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, convainc-nous de péché, de justice et de jugement. Sors-nous de toute forme de torpeur, de tout faux raisonnement qui, Seigneur Père, nous laisserait croire que nous sommes dans le vrai. Alors que peut-être, Seigneur Père, mon Dieu, que nous sommes juste à côté ou en dehors du chemin. Nous voudrions rester dans le chemin. Et ce chemin, tu l'as déjà désigné. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Seigneur, dans la bouche duquel il n'y a point eu de fraude. Dans les pensées duquel il n'y a point eu de fraude. Seigneur, nous refusons toute mauvaise pensée. Nous refusons, Seigneur Père, mon Dieu, toute œuvre, toute manigance de l'ennemi. Nous lions les œuvres des ténèbres. Et nous prenons, Seigneur Père, mon Dieu, autorité sur notre âme. Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi ? Seigneur, je mets, Seigneur, toute forme d'émotion, toute forme, Seigneur, d'apitoiement, d'abattement sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Et que la chair puisse rester crucifiée avec Jésus, afin que mon esprit soit vivifié, afin que notre esprit soit vivifié ce matin. Fervent d'esprit pour te servir avec une bonne conscience, purifiée par le sang précieux de Jésus. Bénis l'église d'Istre, aide-la à aller de l'avant. Seigneur, sanctifie nos cœurs. que nous ne venons pas, Seigneur Père, mon Dieu, comme dans un club, mais que nous venons te rencontrer et entendre ta voix. Seigneur, qui est de, Seigneur Père, des cœurs solennels, un saint respect de ta personne, la crainte de ton nom, pour ta parole toutes les fois où nous l'ouvrons. Ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit. Tu vois les situations difficiles, tu vois les situations épineuses. Et Seigneur Père, mon Dieu, nous nous opposons à l'esprit démoniaque, à toutes ces puissantes ténébreuses. Oh, ils n'auront ni part ni lot dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sanctifie, purifie, débloque encore les situations pour la gloire de ton nom. Tu as dit, tu envoies ta parole et tu les guéris. Alors qu'il en soit ainsi encore dans nos vies. Ce matin, rends-nous libres. Seigneur Père, mon Dieu, alléluia, de pouvoir même nous réjouir, même dans l'épreuve. Lorsque nous connaissons des moments difficiles, tu es un grand Dieu, tu es tout puissant, tu es au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur Père, augmenter notre connaissance de qui tu es. Père, pour la seule gloire de ton nom, et le peuple de Dieu dit, alléluia.